Alors, je ne sais pas si vous avez vu le mot, c'est le mot obéissance. Et voyez, il y a deux choses que j'aime sur ce mot obéissance. D'abord, c'est sur le B, il y a un épi de blé. C'est parce que pour que j'apprenne à me nourrir de l'obéissance dans ma vie. Et puis, il y a un petit camion qui tire tout ça. Vous avez vu le petit camion là? Et en fait, pour que l'obéissance soit le moteur de ma vie. Vous voyez que c'est prophétique. Alors, vous vous souvenez que je vous avais parlé d'obéissance il y a quelque temps. Ça fait un moment que je n'ai pas prêché, mais voilà, je vous parle d'obéissance. Obéissance chapitre 2. Pourquoi je vous parle d'obéissance? Parce que c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles à faire. C'est obéir. Alors, je n'ai pas l'intention de vous mettre un poids sur les épaules supplémentaires, mais vous encourager à obéir. Quand Dieu vous parle, quand Dieu nous parle clairement, quand il nous dit des choses, c'est vraiment important de le noter et de faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que sachez une chose, un, si vous voulez que la bénédiction vienne sur votre vie, la bénédiction dépendra de votre obéissance. C'est une loi spirituelle, je ne peux pas dire mieux. Mais plus encore, sachez que lorsque Jésus reviendra, il dira à certaines personnes, entrez dans mon royaume, parce que vous avez fait ce que je vous ai demandé. Mais à d'autres, il dira à ceux qui n'ont pas obéi, il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que ces gens-là n'ont pas obéi. Et à mon sens, ce que je dois rechercher aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est l'obéissance. Alors l'obéissance, elle s'apprend à travers la méditation. Regardez ce que Dieu dit à Josué avant d'entrer. Médite ce livre jour et nuit, qu'il ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, et tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est le résumé, en fait, de ce que devrait être notre vie. Vous savez, si vous voulez obéir et rentrer dans une vraie vie d'obéissance, prenez le temps devant lui de méditer. Alors, vous pouvez le faire la nuit aussi, pour les insomniaques, ça marche. Prenez le temps de méditer sa parole. Prenez le temps de lire sa parole. Et je vous le dis, ça fait maintenant quelques mois que je vis ça. J'ai mon petit livre de méditation, de prière. À chaque fois que j'ai médité la parole de Dieu, à chaque fois que je médite, je ne dis pas tous les jours, mais régulièrement, le Seigneur me renvoie à mon propre cœur, ma propre vie. Et il me dit, écris cela, Bruno. Parce qu'il faut que ça change en toi. Alors, je ne vous dirai pas ce que je mets dedans. C'est à moi. Mais j'ai découvert, en tout cas, qu'en méditant, en prenant le temps, Dieu nous parle et il nous conduit dans le chemin de l'obéissance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez que vous allez rentrer dans une phase de vacances. Et je sais comment ça marche. Je suis fait de la même graine que vous. On se relâche en vacances. Et c'est peut-être le temps, peut-être, pour plusieurs d'entre nous, au contraire, de redécouvrir une vraie relation avec le Seigneur, avec Jésus. Alors, moi, en tout cas, j'ai conclu ça, que la principale chose que mon Père recherche chez moi, c'est l'obéissance. Et vous vous souvenez, j'avais dit, il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 13, que après avoir rejeté Saül, qui lui n'a pas su obéir, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David. Va-t-il trouver ici des hommes et des femmes, fils d'Isaïe, bon, vous n'êtes pas tous fils d'Isaïe, hommes selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Regardez quand même, qui aujourd'hui voudrait être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu? Si vous voulez avoir la bonne définition d'un homme ou d'une femme selon le cœur de Dieu, c'est pas juste avoir un bon petit cœur pour le Seigneur, hein, qui accomplira toutes mes volontés, qui sera entièrement obéissant à tout ce que je lui demanderai. On va voir que c'est pas juste une question émotionnelle, hein. C'est pas juste une question d'émotion. Et vous le savez, je suis quelqu'un d'émotif et je sais de quoi je parle. Il est hors de question que je réfrène mes émotions. Il faut juste qu'elles soient conduites par un peu plus par Dieu. Mais j'ai tellement vu de personnes émotives le dimanche matin qui, ça m'a tellement blessé par rapport au cœur de Dieu, pas par rapport à moi, hein. J'ai vu des personnes qui louaient Dieu, qui jetaient leurs mains vers le ciel comme ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est le plus grand, le Seigneur est le plus beau, le Seigneur est le meilleur. Et qui sortaient du culte et qui faisaient pire. Des choses terribles. Et qui marchaient dans la désobéissance. Mais Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes comme ça. Il cherche des hommes et des femmes selon son cœur qui accompliront toutes ses volontés. On avait vu la dernière fois, pour ceux qui étaient là, que l'obéissance était supérieure à la foi. Vous ne pouvez pas dire « j'ai la foi » et ne pas obéir. L'obéissance était supérieure au sacrifice. Saül pensait honorer Dieu en sacrifiant. Il a fait tout le contraire de ce qui lui était demandé et il a été rejeté. Parce que, et d'ailleurs Samuel lui dira, mais est-ce que tu te rends compte, tu as fait des sacrifices, tu as fait des belles choses dans ta vie, à tes yeux, mais ce que Dieu te demande, commence par obéir par les petites choses que je te demande. Et la troisième chose, c'est que l'obéissance est la plus haute forme d'adoration. Vous savez, lorsque vous adorez le Seigneur. Et lorsque Dieu qui voit nos cœurs, il voit ce que nous sommes, il voit ce que nous faisons, il voit ce que nous disons, il voit tout. Et lorsque vous levez les mains pour adorer dans votre vie, sachez que Dieu ne voit pas que vos mains et ce qui sort de votre bouche, il voit ce qu'il y a là. Et en fait, si vous voulez grandir dans l'adoration, mes frères, mes sœurs, si nous voulons grandir dans l'adoration, commençons par obéir. Donc ça, c'est ce qui était dit la fois dernière. Vous avez de la chance, je n'ai pas fait d'interrogation écrite. J'aurais dû. Maintenant, on va voir aujourd'hui quatre points. Le point 1, le point 1, le point 1, le point 1. Ça, c'est la transition entre Google Slide et PowerPoint. Tiens, soit dit en passant, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1111 ? 1515, c'est Marignan ? 1111, c'est l'invasion des Huns. Voilà, j'ai bouffé un clown ce matin. On va voir les quatre points suivants. L'obéissance est la mesure de notre amour pour le Seigneur. On va voir que si nous voulons mesurer notre amour pour Dieu, nous devons mesurer notre obéissance. Le deuxième point, l'obéissance, c'est le moyen de vivre l'amitié et l'amour intime que Jésus a pour nous. Parce que celui qui obéit est aimé. Il y a tant de personnes qui recherchent l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu vient si tu obéis. Je fais grincer des dents. L'obéissance nous ouvre l'influence démoniaque. Vous faites ce que vous avez envie de faire, on va le voir, ça ouvre l'influence de démons dans nos vies. Et le quatrième point, ça va mon vélo ? Le quatrième point, c'est que Dieu va toujours tester notre obéissance. Et on va voir avec Abraham. Le premier point d'abord. Le premier point, c'est que l'obéissance est un moyen de mesurer notre amour pour Dieu. Il y a un jeune, un homme qui va venir le voir et qui va lui dire « Lequel est le plus grand des commandements dans la loi ?» Jésus dira « Tu aimeras le Seigneur, enfin, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu. Et je me dis, moi, mais comment je peux mesurer cet amour que j'ai pour Dieu? Et Jésus lui donne la réponse toute claire dans le chapitre 14 de Jean. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui les connaît et qui les garde. Et il y a même un texte dans le psaume 119, je crois, où il est écrit, je sers ta loi contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Celui qui garde, c'est celui qui m'aime, dit Jésus. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous voyez comme l'obéissance ouvre la voie à l'amour divin, à l'amour de Dieu. Elle nous ouvre aussi, elle nous permet de mesurer combien j'aime le Seigneur ou combien je ne l'aime pas ou je l'aime peu. Notre amour pour Jésus se mesure donc par notre obéissance. Et ça, c'est une pensée qui doit nous donner à réfléchir, parce que beaucoup de personnes pensent qu'aimer Dieu, c'est venir le dimanche matin et lever les mains. Ce n'est pas ça l'amour. Aimer sa femme, je vais faire sourire Victoria, aimer sa femme, c'est aussi ranger ses chaussettes au bon endroit. Elle a dit ça tout à l'heure, je crois. Elle a utilisé le mot chaussette. Je peux dire que j'aime ma femme, mais si ma femme me demande de faire des choses et que je ne fais pas ces choses, comment puis-je dire j'aime ma femme? L'obéissance, c'est le moyen, deuxième point, c'est le moyen de vivre l'amitié et l'amour intime que Dieu a pour nous. Si vous gardez mes commandements, dit Jésus, vous demeurez dans mon amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et Dieu réserve son amour et son amitié intime pour ceux qui lui obéissent. Tiens, l'amour de Dieu serait-il conditionnel? Ben visiblement, en tout cas, il dit ici, si vous obéissez, vous êtes dans mon amour. On est dans une relation d'amour ensemble. Voilà ce qu'il dit. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le troisième point, c'est le point peut-être qui fâche. La désobéissance peut-elle nous ouvrir la voie à une influence démoniaque? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien, né de nouveau, qui désobéit délibérément à ce que Dieu lui dit, ce que Dieu lui demande, peut-il ouvrir ou pas la porte à des démons? Ben, j'ai la réponse. Enfin, pas moi, la Bible la donne. Samuel dira à Saül qui venait de désobéir, « Car la rébellion est comme le péché de divination et l'obstination, c'est ça, comme une idolâtrie. » D'ailleurs, vous remarquerez, pour les érudits qui aiment la loi en hébreu, le « comme » n'est pas dans le texte original. En fait, on devrait traduire « car la rébellion est le péché de divination ». C'est pas comme, c'est le péché de divination. Et l'obstination est une idolâtrie. C'est beaucoup plus fort, ça renforce le texte original, non? Vous trouvez pas? La rébellion est la divination. D'ailleurs, les versions anglaises parlent aussi de sorcellerie. Et vous savez que dans la sorcellerie, les participants à la sorcellerie apprennent que plus ils se rebellent, plus ils désobéissent à Dieu, plus ils donnent de pouvoir aux démons qui les dirigent et qui les influencent. Samuel a averti Saül et la Bible montre que peu de temps après avoir désobéi, il y a un esprit qui est venu tourmenter le roi Il est venu dans la vie de ce roi pour le troubler. Pourquoi ? Parce que Saül, le roi, avait désobéi et Samuel venait de lui dire « La rébellion est comme la divination. Tu as ouvert, Saül, une porte à un esprit mauvais. » C'est pourquoi il est écrit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. » Et puis enfin, le quatrième point, c'est que Dieu va toujours tester notre obéissance. Avez-vous remarqué une chose ? Moi, je l'ai remarqué en tout cas. Là où je n'ai pas obéi, il m'est toujours arrivé des situations quasiment identiques jusqu'à ce que j'obéisse. Avez-vous remarqué ça ? Enfin, peut-être pas vous, mais moi j'ai remarqué. Et je pense qu'il est essentiel que nous apprenions l'obéissance, c'est ce que Dieu veut. Et regardez quand l'Éternel appelle Abraham, il l'appelle. Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Certes, il se lève. Abraham, il va devoir quitter trois choses dans sa vie. Vous savez, d'où l'importance de bien entendre la voix de Dieu quand Dieu nous parle et de bien noter ce qu'il nous dit. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra dire « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Quand je note ça, quand je note sur mon cahier de prière tout ce que Dieu me dit quand il me parle, parce que je sais très bien mon cœur, je connais très bien ce qui se passe là-dedans, et je sais que le doute vient souvent m'envahir. Autrement dit, lorsque je rouvre des choses que Dieu m'a dit, j'en ai fait encore l'expérience cette semaine avec toi Alice, tu te souviens, j'ai partagé un truc intime à Alice. Tu peux pas t'imaginer, le fait que je te partage cette chose, ça a réimpacté mon cœur par rapport à ce que Dieu m'avait dit. C'est venu alimenter alors que des pensées négatives avaient envahi mon esprit ces derniers temps. Et Abraham devait quitter trois choses, et c'est important de le noter, son pays, son peuple et la maison de son père. Est-ce qu'il a fait cela ? Je vous pose la question, interrogation écrite, copie, nom, prénom en haut à gauche, la date en haut à droite, dimanche 11 juillet. A-t-il quitté son pays ? A-t-il quitté son peuple ? A-t-il quitté sa famille ? Non. Aviez-vous remarqué cela ? Regardez, Térakh prit son fils Abraham, son petit-fils Lot et sa belle-fille Sarai. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Tiens, Dieu n'a-t-il pas dit « Quitte ta famille, pars seul ?» Moi aussi, je n'avais jamais vu comme ça. Et Abraham va avoir la pression du père. Térakh va venir le voir, il a dit « Oh, mais moi je veux venir avec toi, Dieu t'a parlé, attention, je viens avec toi. » Et je veux t'accompagner. Bon, c'est vrai, il l'a accompagné. Simplement, le pauvre, il en est mort à Charan. Abraham est-il reparti seul de Charan ? Lisez le texte, vous verrez. Non, il a emmené son neveu Lot. Et on sait derrière ce que ça a occasionné. Le projet que Dieu avait pour lui n'était pas forcément celui de sa famille. Alors que les choses soient claires, ce qui ne veut pas dire, et je pèse mes mots, que votre famille n'a aucune valeur et que vous ne devez pas en prendre soin. Hein. Oh, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Ce que Dieu a dit à Abraham n'est pas forcément ce que Dieu vous dit à vous. Ok, je pèse mes mots parce que j'ai peur des retours, vous savez, des tomates d'après-culte. Abraham, Eh oui, j'ai encore des craintes. Abraham plaçait sa famille devant l'obéissance à Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est le père de la foi. Oui, Abraham était un grand homme de Dieu. Il a été reconnu en tant que tel. C'est notre père dans la foi. On va pas lui retirer ça. Mais il a quand même quelques soucis, Abraham, non? Était-il parfait? On retient de lui vraiment, c'est cité dans le livre d'Hébreu, que c'était un grand homme de foi. Il a obéi, mais pas entièrement. Et regardez même, il avait un autre problème. C'est qu'il avait peur pour sa propre vie parce qu'il va dire que sa femme n'était pas sa femme. Petit coquin. Mais au fond, on n'est pas mieux que lui. Et Abraham plaçait sa famille devant l'obéissance à Dieu. C'est un point de faiblesse. C'était une idolâtrie, je ne sais pas. Je ne veux même pas le savoir. Je sais que le texte me dit en tout cas qu'il n'a pas fait entièrement ce que Dieu lui demandait. Et regardez, on n'est pas étonné que le jour, un autre jour est venu, parce que Dieu est venu tester l'obéissance d'Abraham. Il va lui dire, maintenant tu prends ton fils, tu vas monter sur la montagne et tu vas le sacrifier. Il lui dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, et Dieu sait qu'il aime, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et cette fois, Abraham va réussir le test de l'obéissance. Et souvent dans nos vies, et ça je l'ai remarqué moi, mais je l'ai remarqué aussi dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, à chaque fois, Dieu a insisté dans la vie des personnes pour qu'ils puissent entrer pleinement dans l'obéissance. Alors vous allez dire, mais Dieu manque d'amour. Non, parce qu'il sait ce dont, on le sait, il connaît notre pierre d'achoppement, il connaît notre point de faiblesse. Et son souhait, c'est de nous faire grandir dans l'obéissance et dans la foi, que nous dépendions totalement de lui. Et là, il est monté. Je vois encore Isaac lui dire, mais où est l'animal? Tais-toi, il monte. Dieu va pourvoir. Et ce jour-là, je peux vous dire que Abraham a réussi le test de sa vie. Ce n'était pas lors d'un séminaire prophétique, ce n'était pas le jour d'une prédication d'un pasteur, ce n'était pas dans sa chambre, c'était dans la concrétisation de ce que Dieu lui avait demandé. Mon frère, ma sœur, vous pouvez avoir peur du test de l'obéissance. Mais si nous le réussissons, si nous entrons pleinement dans ce que Dieu nous demande et que nous réussissons, alors nous deviendrons père et mère d'une multitude. Notre nom va changer. On ne sera plus appelé de la même manière ensuite. Et notre nom sera reconnu. C'est pourquoi il est cité parmi d'autres héros de la foi, comme quelqu'un qui a marché avec Dieu. Vous voulez que je vous donne un autre exemple? Noé. Je peux en citer plein d'autres. Noé, il a obéi. Le test de l'obéissance là, de Noé, vous savez ce que c'était? C'est la patience. Face à l'opposition et à la difficulté, regardez ce qu'il fait. Dieu lui parle, lui dit, construis une arche, il n'y a pas d'eau. Moi, Dieu me demande de bâtir une arche en plein désert. Je lui ai dit, Seigneur, t'es sûr que tu m'as parlé là ou... Non, ça ne vient pas de Dieu là. Il bâtit une arche. Combien d'années? Plus de 100 ans? À peu près? Il persévère, il bâtit. La crise arrive. J'ai prié dans ce sens-là, je dis, pour que Bezalel entre pleinement dans l'obéissance. Parce que vous savez, souvent, quand Dieu nous parle, on veut que les choses arrivent tout de suite. Et je crois que Noé, quand Dieu lui dit « bâtis une arche », il était persuadé que 10 ans plus tard, l'arche serait construite. Et souvent, on veut voir les choses arriver avant le temps divin. Il a fallu que cet homme patiente. qu'il entende les moqueries, les moqueries, les moqueries. Qu'il sue, qu'il scie du bois. Il a fallu que cet homme marche pendant un siècle placé. Vous imaginez 100 ans ? C'est l'âge, c'est le nombre d'années que je vais vivre. Sur cette terre, peut-être. Mais vous imaginez 100 années, 100 ! Et que se passe-t-il ? La crise vient, l'eau tombe, la pluie tombe en abondance. Et au milieu de la crise, par la crise, à cause de la crise, l'arche se lève au-dessus des flots. Et cet homme pourra entendre de la part de tous les animaux qui sont rentrés dedans, « Merci Noé, parce que tu as obéi, parce que tu as été un homme qui a marché avec Dieu. » C'est une chose d'obéir lorsque la commande est humainement logique. Mais lorsque ça devient complètement irréel dans notre vision cartésienne ou notre vision logique des choses, ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous comprenez que de demander à un homme « va sacrifier ton fils que je t'ai donné », c'est complètement illogique et cet homme l'a fait. Est-ce que vous comprenez que de construire une arche là où il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'eau, c'est complètement illogique ? C'est facile d'obéir quand on veut, quand on connaît les choses à l'avance. Mais quand on ne les sait pas et quand Dieu nous demande de faire des choses qui nous paraissent totalement contraires à ce que nous aurions fait, là, ça devient plus difficile. Et c'est là où nous devons apprendre, mes frères, mes sœurs, à écouter vraiment ce que Dieu nous dit, à le noter, à examiner. On comprend pourquoi l'apôtre Paul dira « Ne méprisez pas la prophétie, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Ce n'était pas du tout éthique ni pratique de tuer Isaac. Pourtant, Abraham a obéi. Les tests d'obéissance nous montrent si notre foi et notre fidélité font partie de notre caractère. Et je dois vous l'avouer, moi je le confesse, je n'ai pas encore ce caractère-là. Je n'ai pas encore le caractère obéissant. Vous savez pourquoi ? Parce que parfois il y a la pression des autres, parfois il y a la pression de ce qu'on a vu. On a le plafond qui nous tombe sur le nez. Parfois aussi, on a eu des échecs dans le passé. Et ici, il y a des personnes qui ont échoué dans le passé, qui ont besoin d'être guéries de cela. Et de se dire, aujourd'hui, je veux entendre la voix et y aller. Il y a des personnes qui sont bloquées dans leur obéissance parce qu'elles ont vécu de profonds et violents échecs. Et ton obéissance sera-t-elle inconditionnelle ? Voilà, j'ai fini. Si on pouvait prier un peu et de nous donner un cœur pour obéir, un cœur pour marcher avec Dieu. J'espère ne pas avoir mis trop de poids sur vos épaules. Hein. Simplement, ce que Dieu cherche dans ces temps-là, les temps de la fin dans lesquels nous sommes, c'est des hommes et des femmes qui obéissent.